Bonsoir messieurs. Alors, on est ravis de vous accueillir ici ce soir au Théâtre Berthelot, avant le début du spectacle, pour en savoir plus. Attends, il faut que je... Pour en savoir plus sur le travail d'édition que vous avez réalisé récemment aux éditions Libres, puisque vous avez commis trois volumes autour de Kazinski.
Exactement.
Et peut-être je vais vous demander d'abord, comme le veut la coutume, de vous présenter, qu'on sache un peu qui vous êtes, d'où vous venez, et qu'est-ce qui vous a amené à ce travail de traduction et d'édition dont on parlera dans un second temps.
Eh bien, je vais essayer de commencer. Très simplement, déjà peut-être préciser que Romuald et moi-même, Alexis, on s'est connus au collège. Donc quelque chose de très naturel en termes de relationnel. Et c'est au lycée où j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la philosophie, pas spécialement grâce au professeur d'ailleurs, mais un petit peu en autodidacte, et en m'intéressant un petit peu aux théories qui avaient cours au niveau de l'écologie dite décroissante et de l'anarchisme. J'ai fini par tomber sur de nombreux écrits, dont ceux de Théodore Kaczynski, que j'ai lu du coup assez jeune, mais qui ne m'avaient pas spécialement marqué comme ils m'ont marqué dans les années plus tard. Il a fallu que ça mûrisse, que je relise plusieurs fois. Du coup, la question d'où on vient, je crois que j'ai plus ou moins fait le tour assez rapidement. Quoi. C'est vraiment au niveau du lycée, je me suis politisé. Quoi.
Ok. Et aujourd'hui, tu es traducteur de métier
Devenu de traducteur de métier. Et donc, je ne pense pas que ce soit un spoil de dire qu'il y a un volume 2 de l'esclavage technologique qui est prévu. Donc pour l'instant, on travaille. On en a déjà fait 3. Le troisième est sorti début 2023. Et on ne s'arrête pas.
Okay. Alors vous allez nous présenter après les trois volumes un peu dans l'ordre d'édition et tout, et ce qu'ils contiennent. Je te laisse te présenter.
Moi je suis Romuald Fado, donc comme Alexis l'a dit très justement, on s'est rencontrés étant enfant, et on n'a pas commis que des livres.
Mm-hmm.
Mais,
quoi d'autre?
Je resterai discret sur le sujet.
Mm-hmm.
Pour ma part, j'ai découvert Kaczynski il y a à peu près 8 ans. Mm-hmm. Donc peut-être qu'il est utile de préciser nos âges.
Oui.
Moi, je viens de fêter mes 29 ans et il vient de fêter ses 28 ans. Donc j'ai découvert Kaczynski à 20 ans, tout rond, et ça m'a vraiment fait une très forte impression. J'ai eu l'impression d'entrer en contact avec quelqu'un qui avait su faire de façon raisonnée et non partisane le diagnostic d'une société, la société industrielle, totalement en déroute, et dont les causes de cette déroute étaient bien plus profondes que ce qu'on pouvait croire et n'auraient jamais pu être résolues par de simples réformes. Mmh. Donc je l'ai lu et j'ai vraiment cédé à son charme.
Alors vous l'avez lu dans quelle édition? Vous l'avez lu en ligne sur internet ou vous l'avez lu...
Moi ça a été l'Encyclopédie des nuisances. Traduction collective.
C'est une bonne question. Mm-hmm. C'était pas la première d'Apostolides. Je me demande si c'était pas aussi l'Encyclopédie des nuisances, mais quand je l'ai relu, c'était Xenia Édition du coup. Mais ouais, je me demande si la première fois c'était pas aussi l'Encyclopédie des nuisances.
Alors nous, je le dis pour mémoire, nous on monte la traduction effectivement de Jean-Marie Apostolides qui est décédé il y a quelques temps aux éditions Climat. Voilà, et c'est une traduction qu'il a initiée quelques jours après la parution du manifeste en 95, je ne me trompe pas ?
Exactement.
D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être comment ce manifeste a été édité à l'origine ?
Tu veux le...
Je peux essayer de faire un petit peu plus complet. Mm-hmm. C'est pas évident.
On peut commencer par le départ.
En anglais, j'entends. Hein.
Le
processus
évidemment.
Qui a amené à l'édition initiale par Théodore lui-même. Est-ce que vous voulez bien nous rafraîchir un peu là-dessus?
Eh bien, en fait, Kaczynski, à partir des années 70, a commencé sa campagne de colis piégés, d'envoi de colis piégés, et au rythme d'à peu près un colis par an, donc des colis artisanaux confectionnés avec soin dans son cabanon. À Lincoln dans le Montana, donc au rythme d'un par an à peu près, et donc ça a lancé justement une enquête auprès du FBI a été lancée. Mmh. Il a été poursuivi pendant à peu près 18 ans,
19
ouais 18-19 ans, Et en 95, justement, il contacte le New York Times et le Washington Post, parmi d'autres journaux, mais ceux-là répondent positivement, et leur dit qu'il interrompra volontiers ses attentats s'il publie son manifeste de 30 000 mots en édition accessible au public, c'est-à-dire sur les pages du journal. Et c'est comme ça que le manifeste apparaît à la face du monde.
Donc il est édité dans les deux plus grands journaux américains.
C'est exactement ça, ouais.
Tirage.
En centaines de milliers d'exemplaires.
Ouais, intégralement.
Et il est vendu en centaines de milliers d'exemplaires.
Ok. Et le manifeste lui-même, il a commencé à l'écrire, je crois, plutôt dans les années 60. Ou est-ce qu'on peut dater la rédaction?
C'est un travail de longue haleine qui commence à partir de son exil, de son érémitisme. À partir du moment où il quitte sa fonction de professeur assistant à Berkeley, mm-hmm. et qu'il part s'installer dans la montagne, il développe en fait sa conscience antitechnologique, mm-hmm. notamment par la lecture d'Ellul. Et c'est comme ça que petit à petit il va affiner sa pensée jusqu'à aboutir à ce manifeste.
Ouais, je pense que c'est fin 70, après avoir quitté Berkeley, où il enseignait en tant que professeur de mathématiques, où il avait déjà une petite conscience technocritique, parce qu'il disait qu'il ne voulait pas enseigner aux ingénieurs à comment détruire l'environnement. Du coup, il a renoncé à sa chaire. Et donc il part dans s'isoler dans la petite cabane que nous allons voir tout à l'heure, reproduite à l'échelle, si j'ai bien compris. Et oui, il se base notamment sur les travaux de Jacques Ellul, qui m'ont remué, parce qu'en gros, ça a mis des mots sur ce qu'il savait déjà d'instinct. Mmh. Et donc Jacques Ellul, qui est un philosophe français en plus. Mmh. Donc voilà. Voilà comment ça a commencé.
Très bien, merci beaucoup. Alors maintenant, on va parler de votre travail et de ces trois volumes. Est-ce que vous voulez bien nous raconter par lequel vous avez commencé, tout simplement, et depuis quand vous êtes au travail sur ces textes?
On a commencé en 2020, mmh. Avec Révolution Antitech. C'était paru en 2016 aux États-Unis. Mmh. Et nous, en fait, on n'était pas traducteurs ni de formation ni de profession. Un soir, je me suis aperçu que le livre n'avait pas été traduit en français, alors que ça faisait déjà 4 ans qu'il était paru. Et donc, j'en ai parlé à Alexis. Comme j'avais eu un petit contact avec quelqu'un qui travaillait aux éditions libres, je lui ai demandé s'il était d'accord pour qu'on publie une traduction française de cet ouvrage. Mmh. Et s'il acceptait de nous faire confiance, à nous, traducteurs débutants, qui avions déjà traduit des articles auparavant, mais voilà, jamais quelque chose d'aussi gros. Mmh. Et la réponse a été positive, et puis un an après est sortie Révolution Antitech, pourquoi et comment, aux éditions libres.
Alors, vous pouvez nous présenter un petit peu ce texte, de quand il date, et qu'est-ce qu'il contient, le situer par rapport au manifeste de Kaczynski?
Alors, il y a 21, oui, c'est ça, c'est 21 ans qui les séparent.
Mm-hmm.
21 ans qui les séparent. Révolution Antitech, en fait, contient les apports, je dirais, concrets.
Ouais,
ouais, les apports pratiques, exactement, de Kaczynski. Autant dans l'ouvrage qu'on a publié en dernier, dont je vous parlerai après, on se concentre sur quelque chose de davantage philosophique. Autant là, en fait, il s'agit d'autopsier les révolutions passées et déterminer quelle est la voie à suivre pour qu'un mouvement anti-tech véritablement efficace, un mouvement anti-technologie, mm-hmm. je précise pour ceux qui ne connaîtraient pas le diminutif, mm-hmm. pour qu'un mouvement anti-technologie véritablement efficace puisse apparaître et faire son œuvre, c'est-à-dire renverser le système technologique.
Et le texte date de quand alors?
2016.
2016, d'accord.
Et donc 4 ans après, 5 ans après, pardon, on sera en France.
Donc il est écrit en prison.
Ouais. Exactement, oui, mais comme la plupart de ces textes en fait.
D'accord, donc la plupart des textes que vous éditez ont été écrits en prison.
Hormis le manifeste qui a été écrit en liberté, tout a été écrit en prison. Et puis une grosse partie de ces écrits contient en fait sa correspondance.
Mm-hmm.
Cette correspondance, elle, se déroule depuis le pénitencier. De Florence, dans le Colorado.
Je ne me souviens plus de combien d'années de prison il a eu, finalement. Quelle a été sa peine, concrètement?
Je crois qu'il a écopé de 8 peines de prison à vie.
8 peines de
minimum,
prison à vie, mais ça représente presque 700 ans de prison. Alors, est-ce que tu...
Oui. Une petite précision sur Manifeste, parce que certains l'ont peut-être déjà lu, elle est sortie en 96 ou dans d'autres éditions entre-temps.
Ouais.
L'avantage de la nôtre, c'est qu'elle a vraiment été ajourée, parce qu'il a fait... En fait, il passe son temps à réécrire ses livres, à faire des mises à jour, à vérifier que ses notes, il soit toujours en accord avec ou qu'il ne soit pas trompé de source.
Mm-hmm.
Donc notre version reste à ce titre la toute dernière en fait valable.
D'accord, il y a un gros système de notes. Hein.
Ouais. Oui, c'est vraiment très conséquent.
Ok. Vous avez échangé avec Kaczynski au cours de votre travail de traduction. Est-ce que vous êtes allé le chercher pour avoir des explications des...
Pas au cours de ce travail de traduction, non. Au cours d'aucun travail de traduction, d'ailleurs. Ouais. En fait, c'est en apprenant qu'il avait été touché par un cancer qu'on a jugé bon lui écrire.
Oui.
Et ça a donné lieu à un échange assez nourri. Donc,
Vous avez eu une correspondance nourrie avec lui, très
exactement.
Bien. Ok. Ok. Alors, est-ce que vous voulez nous parler un peu des deux volumes qui ont suivi, nous
ouais.
expliquer ce qu'ils contiennent?
Alors, du coup, Révolution Entité, qui est le dernier sorti chronologiquement aux États-Unis, mais on l'a traduit en premier.
Ouais.
Ensuite, on a fait L'esclavage technologique, donc le petit livre rouge.
D'accord.
Ceux qui ont la chance de les voir de vivre.
Ça, c'est La société industrielle et son avenir.
Donc, le manifeste.
D'accord.
Donc, le plus connu, le plus traduit d'ailleurs. Mais qui avait du coup nécessité quand même une petite retraduction parce qu'il y a beaucoup d'ajouts, beaucoup d'apports.
Mm-hmm.
C'est dans celui-là Kaczynski en parle au début, je crois, ou c'est dans L'esclavage technologique qui précise pourquoi il a...
Oh, oui, il le précise dans L'esclavage technologique.
Pourquoi il fallait refaire un petit peu. Alors, les ajouts, des post-scriptum, etc.
À titre d'exemple,
oui.
Il faut savoir se démarquer de ses concurrents. Mais la traduction qui avait été faite par Monsieur Barriot, Patrick Barriot, pour les éditions de Xenia,
mm-hmm.
était somme toute assez... assez incomplète, voire lacunaire, et il avait même oublié, même omis un paragraphe dans le manifeste, ce qui est gênant quand les paragraphes sont numérotés. Mais je mettrais plus ça sur le compte du soin apporté à l'édition et au fait qu'il a peut-être pas bénéficié d'une relecture convenable. Donc,
du coup, le manifeste.
L'erreur est réparée.
Et les ajouts de Kaczynski au manifeste initial, ils sont de quelle nature, de quel ordre?
Postface.
Une postface.
Des notes modifiées.
Mm-hmm.
Beaucoup de modifications au niveau des notes, au niveau des sources. Quand mm-hmm. il lit des nouveaux bouquins, des fois, il change d'avis. En plus, vu que du temps a passé entre 2020, qui est la dernière correction,
mm-hmm.
et 95,
mm-hmm.
il y a des fois où il n'est plus d'accord avec lui-même, donc il enlève un paragraphe, il le modifie, ou alors il le laisse, mais il met une petite astérisque, il dit « bon, je ne suis plus trop d'accord avec ceci. »
Ah
avec
oui, ça. Tu as un exemple de...
La question, première chose qui me vient, c'est la question des enfants.
Ouais.
En 95, il était plutôt partisan que... les militants anti-technologie devraient faire un maximum d'enfants et les élever dans des idées anti-technologie. Aujourd'hui, il est un peu moins optimiste sur le temps qui reste pour une révolution anti-technologie. Du coup, il dit non, ça sera plutôt la génération actuelle qui devra faire la révolution. On n'a pas trop le temps d'investir sur 20, 30 années ou plus.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est le premier exemple qui me vient.
Ok.
J'en ai un deuxième, c'est celui de l'anarchisme.
Mm-hmm.
Il s'était, en tant que FC, Freedom Club, comme il se surnommait,
mm-hmm.
Qualifié d'anarchiste dans la première version du manifeste. Et c'est quelque chose sur lequel il est revenu, parce qu'il a jugé qu'en fait l'anarchisme, en tout cas les échos qu'il en a eus et ce qu'il a pu voir du militant, ce qu'il a pu voir,
mm-hmm.
ce qu'il a pu entreapercevoir du militantisme anarchiste aux États-Unis et en Angleterre, mm-hmm. ne correspondait absolument pas à ce que lui défendait. Donc, moi, je lui retirerai pas ce qualificatif-là. Je pense qu'il est vraiment, en plein dedans, mais ça se débat. Et puis, j'ai peut-être pas forcément envie d'en débattre avec lui. Après tout, il y a deux choses à se dire.
Ok, ouais. Très bien. Alors, est-ce que vous voulez nous parler un peu des deux autres volumes, donc qui suivent mais qui précèdent?
C'est
si
ça,
je
qui
comprends
suit
bien.
Mais qui précède historiquement. Alors, du coup, La société industrielle et son avenir. Le petit bouquin rouge,
ouais.
qui est le manifeste le plus connu, plusieurs fois traduit, qui est en gros le concentré du diagnostic de Kaczynski sur ce qu'il appelle la société techno-industrielle, qui consiste, je crois que c'est 110 pages, 120 pages, quelque chose
ouais.
comme ça,
mm-hmm.
et 225 paragraphes, mm-hmm. assez facile à lire en mm-hmm. réalité, même si c'est compact en termes de contenu. L'avantage de la numérotation, c'est que ça aide à se représenter des blocs de pensée,
mm-hmm.
un peu comme des chapitres. Et le deuxième livre reprend le premier, reprend le manifeste contre la société industrielle.
Oui, il l'intègre à l'intérieur.
Mm-hmm.
Ouais, dans le livre vert, du coup.
D'accord.
On a le petit livre rouge. Pour suivre.
Ouais.
Le petit livre vert ensuite.
Un avoir avec Mao. Accompagné à la fois de ce qu'il appelait des annexes, des appendices en anglais,
mm-hmm.
et de très longues correspondances avec le docteur David Scribina, qui est son meilleur ami de stylo, son correspondant principal en prison,
mm-hmm.
qui lui pose beaucoup de questions à la fois à caractère théorique, à la fois à caractère stratégique. Donc sur des sujets, ça peut aller sur la morale, ça peut aller sur la vie des chasseurs-cueilleurs au paléolithique dans telle ou telle zone.
La nécessité d'une préservation de l'art aussi,
oui.
Ça c'est une question qui vient dans sa correspondance.
Une préservation de l'art ?
Ouais, est-ce que l'art pourra être sauvé par exemple s'il y a une révolution contre le système technologique ? Ça c'est vraiment une question qu'abordé dedans. Moi la réponse me convainc. Si je peux me permettre d'en parler un petit peu.
Bien sûr.
Kaczynski part du constat qu'en fait plus le temps passe et moins les productions culturelles héritées du passé attirent de gens, qu'il y a donc un déclin au niveau quantitatif, par exemple la fréquentation des musées ou la fréquentation des grandes œuvres littéraires, et que si le système techno-industriel continue sur sa lancée, cette culture disparaîtra de toute façon, remplacée par une culture de consommation. Et donc on perdrait moins à tenter une révolution au plus vite pour préserver ce qui nous reste que d'espérer, en restant inactif, sauver les meubles.
Très bien.
Et les tableaux.
Ok. Donc, c'est quand même le plus gros des trois volumes.
Et le plus lourd.
Le plus lourd, le plus complet. Les correspondances, elles datent de quand, du coup on est sur
début des années 2000.
Ouais, jusqu'à...
Avant les années 2010.
Alors, est-ce que, c'est peut-être une question difficile, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment sa pensée a progressé, finalement, d'une certaine manière, depuis ce manifeste, vers quelle direction il a continué à réfléchir, plutôt sur des questions écologiques, ou des questions de technologie est-ce que vous pouvez nous donner un peu la direction de sa pensée depuis le manifeste ?
À titre personnel, je dirais qu'il y a deux axes,
ouais.
Mais si tu veux dire quelque chose avant, Lucie.
Ben, je dirais qu'il a évolué, mais dans la même direction. C'est-à-dire que des choses qu'on pouvait à peine pressentir, moi personnellement, il y a des choses que j'avais pas forcément comprises dans la première lecture du manifeste. À la deuxième lecture, on commence à s'imprégner davantage, et en fait, c'est vraiment dans l'esclavage technologique, ou même plutôt, en ce qui me concerne, dans Révolution Antitech, où certains paragraphes, qui faisaient à peine trois lignes dans la version de 95, là, sont développés sur tout un chapitre, et expliquent pourquoi, par exemple, selon lui, la réforme n'est pas possible, la réforme au sens étatique du terme, la prise du pouvoir et tenter de changer ceci, cela, sur plusieurs générations. Mais en fait, la question de la stratégie était déjà abordée en sous-texte, notamment à la fin du manifeste, dans les derniers paragraphes. Et Révolution Antitech, en fait, ça va être... si tu peux me permettre une petite boutade, en fait, c'est juste que le bouquin aurait été trop long s'il avait tout envoyé dans le New York Times du premier coup, mais franchement, il y a une évolution. Mais elle est, en même temps, elle est un petit peu linéaire, quoi. C'était un petit peu dans les mêmes thématiques. Sauf que le premier, vraiment, c'est une question de diagnostic. Donc la société industrielle et son avenir, c'est vraiment du diagnostic. C'est pourquoi je pense qu'il faut faire une révolution. Révolution Antitech, c'est vraiment comment. Avec beaucoup de lectures sur l'histoire des mouvements sociaux qui nous ont précédés, des révolutions qui ont échoué, et celles qui ont réussi, avec beaucoup de témoignages.
Quelles sont les révolutions qu'il...
La révolution irlandaise, russe, sa préférée, la révolution bolchevique de 1917, un petit peu révolution française, Cocorico, et beaucoup de révolutions irlandaises. D'ailleurs, j'ai révolution, mais c'est plein de petits mouvements, d'ailleurs, même ceux qui ont échoué. Est-ce qu'il ne parle pas un peu des... Il ne parle pas tant que ça des ludites. Je me dis
non,
si je me trompe.
Non, c'est quelque chose.
Non, c'est... Donc c'est vraiment bolchevique et les Irlandais.
Et alors, sur la stratégie, quelle est la stratégie un peu
la stratégie
qui surgit? Quels sont les...
Les grands points stratégiques, ça va. En fait, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment très universitaire, hein, même s'il a une image un peu particulière à nos yeux. Donc, en fait, c'est simple. Il s'est contenté de lire un maximum de bouquins sur comment les révolutions ont été faites ou défaites dans le monde entier, dans tous les pays, même en Asie, dans tous les continents. Et il cherche à voir quelles sont les lois, entre guillemets, quels sont les principes objectifs qu'on pourrait tirer, parce qu'à chaque fois, il y a quand même des similitudes. Il y a Fidel Castro aussi, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, il en parle beaucoup.
Il y a Cuba.
La façon dont il a pu prendre le pouvoir, et le fait que... alors là, c'est vraiment pour un cas très précis à l'intérieur d'une règle qu'il énonce, le fait qu'en fait, on a besoin de militants déterminés, et que c'est pas le nombre en fait qui fera vraiment la différence, c'est la qualité
d'engagement d'un petit groupe de personnes.
Exactement. Fidel Castro, c'est avec une dizaine de personnes qui fait son affaire. Tout est possible.
Ils sont 15 ans. Quelque chose comme ça.
Tu voulais...
C'était sur la question de tout à l'heure, hein, sur l'évolution de Kaczynski. En fait, effectivement, Alexis a déjà tout dit en fin de compte. C'est vraiment un développement philosophique sur des questions qu'on pourrait considérer comme abstraites. Par exemple, le rapport des anarcho-primitivistes à la réalité de la vie des primitifs, qui est amplement détaillé dans l'esclavage technologique volume 1. Et en fait, il s'agit vraiment d'un démontage en règle de l'idéologie anarcho-primitiviste qui aurait tendance à considérer que chez les peuples premiers, tout n'est que bonté, la violence n'apparaît pas, tout n'est qu'égalité. Et lui, s'appuyant sur beaucoup de textes d'anthropologues anciens, des gens qui ont été parmi les premiers au contact de peuples premiers,
Il va démentir cette lecture.
Et il va notamment beaucoup s'attaquer, c'est presque de bonne guerre, à John Zerzan, qui fait...
Qui est-il ?
John Zerzan, c'est le théoricien de l'anarcho-primitivisme numéro 1.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce mouvement, l'anarcho-primitivisme ? Ça date de quand ? C'est plutôt dans quel continent ? Est-ce que c'est encore une pensée active aujourd'hui ?
Je dirais que ça date des tout premiers travaux anthropologiques. La plupart des anarcho-primitivistes ont comme idée que la société de chasseurs-cueilleurs, nomades, précisons, était plus égalitaire au niveau des rapports économiques, socio-économiques, dans certains qui sont même inexistants. Il n'y a pas de propriété, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'échange marchand. Même au niveau de l'égalité des sexes, des genres. Et un rapport un peu moins exploiteur vis-à-vis de la nature. Donc en gros, c'était un petit peu, il y a parfois ce fantasme, notamment chez John Zerzan dont on vient de parler, un petit peu chrétien du paradis originel, du jardin d'Éden, c'était 100% mieux avant. Il n'y avait aucun défaut dans cette société-là, dans ces communautés-là. Donc voilà en gros comment on pourrait décrire le mouvement et de quand ça date. Franchement, ça date des tout premiers travaux anthropologiques. Je me souviens, l'un des textes qu'on retrouve souvent chez les anarcho-primitivistes, ça va être le texte d'Engels, L'origine de la propriété privée, de la famille et de l'État, et c'est 19e. Donc c'est vraiment début de l'entreprise anthropologique officielle, début des thèses comme quoi, dans certaines communautés, on ne connaît pas l'échange marchand, on ne connaît pas l'inégalité socio-économique. Et je le dis sans mépris, il y a vraiment des communautés où on peut plus ou moins attester de ça. Il ne s'agit juste pas de faire d'amalgame. Parce qu'il y a de l'inégalité dans d'autres sociétés de chasseurs-cueilleurs. Mais voilà, en gros, le poncif anarcho-primitivisme qui demeure intéressant, c'est que les sociétés étaient parfaitement égalitaires à tous les niveaux. Avant la révolution du néolithique, il y a moins 10 000, moins 12 000 ans.
Donc la position de Kaczynski, elle est très loin de ça.
Elle est critique de ça. Après, là, à titre personnel, il a beau s'en dédouaner sur une trentaine de pages. À la fin, il me semble qu'à la fin de ce texte, donc la vérité à propos de la vie primitive, il admet que ça serait quand même une meilleure vie que celle d'aujourd'hui, celle de chasseurs-cueilleurs nomades, qui remplirait davantage les besoins psychologiques et biologiques de l'être humain, physique aussi, et que c'était quand même un peu plus égalitaire, voire libertaire comme vie. Il précise bien nomade, par contre, pas sédentaire.
Bien. Alors, peut-être pour terminer, vous demander, peut-être vous, qu'est-ce qui vous attache à Kaczynski ? Qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui dans son analyse et qu'est-ce qui vous paraît actif ?
Moi, je crois que ce qui me plaît le plus, en fait, chez lui, c'est cette capacité à s'adresser à son lectorat sans prendre de pincettes. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire très peu de cas des jugements moraux, en ce sens où je le rapproche de Nietzsche, mais vraiment pour la manœuvre. Il va faire très peu de cas des jugements moraux. Il ne va pas se soucier de froisser ou d'aller contre quelque chose qui semblerait être une vérité morale. Il va parler, il va s'efforcer de découvrir la vérité et de raisonner. En fait, il fait vraiment un examen critique véritable. Et on est vraiment très loin, je pense qu'aux antipodes d'une pensée partisane, en fait. Et je suis persuadé qu'en fait, on gagne à le lire sur le plan critique, sur le plan de la remise en question personnelle aussi. Toujours savoir se sortir de sa zone de confort en matière d'idées, c'est quelque chose auxquelles on ne devrait jamais renoncer. Mmh. Et il nous apporte ces choses-là, en fait.
Tu le considères comme un philosophe libertaire ou comment tu...
Non, je le considère comme un homme du vrai monde, mmh. qui a tenté de vivre libre, mmh. et qui, confronté à la destruction de la nature alors qu'il avait choisi de fuir, s'est rebellé. En ce sens, un vrai révolté.
Très bien.
Eh bien, Romuald m'a un peu volé ma réponse sur le côté froid et matérialiste.
Je ne l'ai pas volé, je l'ai collectivisé.
À 100% matérialiste de Kaczynski, c'est-à-dire qu'il voit quelque chose, il le dit. Mm. Peu importe si ça pique, peu importe si ça correspond pas à des idéaux ou à des idées en vogue, y compris dans son propre camp, à supposer qu'il en ait un, du coup, qui serait le camp libertaire. Si je devais donner une deuxième raison, mm. parce que celle de Romuald, je la valide complètement, ça serait que bah, j'ai simplement que selon moi, il a raison. Et je, pour conclure très rapidement là-dessus, avec un élément d'actualité, mmh. il me semble avoir lu un article dans, je vais pas donner de, je vais me tromper de journal, mais en gros, depuis l'apparition là, de ChatGPT, je crois que c'était le titre de l'article et l'entête semblait expliquer que, bah, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais je crois que c'est 74% des entreprises qui utilisent ChatGPT songent ou ont déjà remplacé des employés. Et ça me... Quand j'ai vu ça, j'ai fait « bon bah voilà, j'ai pas traduit ça pour rien ». Parce qu'on peut croire parfois qu'il part d'un petit peu loin, parce qu'il a écrit ça dans les années 90, à une époque où les ordinateurs portables n'existent pas. Mmh. Comme le rappeler, c'est pas quelque chose qui est... Aujourd'hui, là, j'ai mon téléphone dans la poche, on a tous des objets partout. Lui, c'est même pas une réalité qu'il connaissait, en fait. C'est quelque chose qu'il pressentait mmh. sur la base de lecture et d'un instinct visionnaire. Et quand on relit quelqu'un qui a écrit son premier texte, du coup, en 95, et qu'on voit que ce qu'il avait prédit à tel paragraphe du manifeste, se réalise avec ChatGPT, se réalise avec tel...
Qu'est-ce que c'est que ChatGPT ? Excuse-moi.
ChatGPT, c'est une intelligence artificielle à laquelle on peut demander différentes tâches, mais vu que je ne l'utilise pas, je pourrais pas te dire exactement
très bien.
La totalité de ses fonctions.
Et que font les entreprises avec cette...
Elles peuvent remplacer des employés. Parce que les intelligences artificielles ont ce super pouvoir de nous rendre complètement obsolètes. Mm-hmm. Voilà.
Très bien. Peut-être savoir si, vu qu'il y a un petit peu de monde avec nous, si vous avez envie d'échanger avec nos camarades ou de leur poser quelques questions sur leur travail d'édition. Sinon, les livres sont là, à disposition pour être regardés, feuilletés ou achetés, je crois même.
Oui, voilà. Il n'y a pas de souci.
Et puis,
je vais pas me plaindre.
Vous restez avec nous, messieurs, et puis on pourra discuter un petit peu de manière plus informelle après le spectacle.
Alors, pour ceux qui écouteraient...
cette bande dans les temps futurs.
Ouais, je tiens à préciser que pour le moment, on peut encore recourir aux services postaux. Et si vous passez par le site des éditions libres, les frais de port sont gratuits.
Les frais de port sont gratuits pour se faire envoyer ce livre.
Ça vous évite de passer par Amazon, c'est plutôt bien.
Très bien, c'est bien de préciser. Bon, merci beaucoup. Et puis à tout à l'heure après le spectacle.
Merci beaucoup.